J'avance comme une traînée d'anciens wagons, sans provenance, sans destination. M'en loin pas vers toi, non, puis va-t'en pas chercher de raison. Perché dans le décor, ton hamster en dérail, le cœur à moitié mort sur le bord des rails. Gare au locomotivé qui s'éveille et se pointe à ta ligne d'horizon.
C'était Alan Hurd et sa chanson Embarques-tu. Culture, et on commence par une entrevue de Maxime Demers dans le Journal de Montréal, entrevue que lui a accordé Gilbert Sicotte, et le titre de l'article en dit long, J'ai tourné la page. Après avoir vécu des mois difficiles à cause de son congédiement du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, Gilbert Sicotte est prêt à revenir au cinéma. En plus de tenir la vedette du film Identité, qui prend l'affiche début juin, l'acteur jouera cet été aux côtés d'André Lachapelle dans une adaptation cinématographique du roman Il pleuvait des oiseaux. C'est un Gilbert Sicotte souriant et de bonne humeur qu'on a rencontré jeudi à l'occasion de la sortie prochaine du film québécois Identité. Si seulement 3 mois ont passé depuis qu'il a été remercié du conservatoire après y avoir enseigné pendant 30 ans, l'acteur a visiblement le désir de passer à autre chose, même si les blessures semblent encore douloureuses. « J'ai tourné la page, mais ça a été un hiver très difficile », s'est contenté de répondre Sicotte en changeant de ton quand on a abordé le sujet avec lui en entrevue. Questionné ensuite à savoir s'il avait craint que cette histoire nuise à sa carrière d'acteur, Sicotte a simplement répliqué qu'il ne voulait pas penser à cela et qu'il souhaitait changer de sujet. Rappelons que c'est un reportage de Radio-Canada diffusé en novembre dernier qui a déclenché le scandale. Le reportage de 8 minutes, qui a fait l'objet de plus d'une centaine de plaintes de téléspectateurs, donnait la parole à d'anciens élèves de Gilbert Sicotte, accusant le réputé acteur et professeur de dénigrement, de violences verbales et de harcèlement psychologique. Après avoir suspendu temporairement M. Sicotte afin de mener sa propre enquête, le conservatoire a finalement décidé de mettre fin au contrat de travail de son professeur en février dernier. La nouvelle a fortement ébranlé le comédien de 70 ans, qui n'a pas compris pourquoi la direction du conservatoire avait agi de la sorte après lui avoir fait savoir pendant toutes ces années qu'elle appréciait son enseignement. Préférant aujourd'hui laisser cette histoire derrière lui, Gilbert Sicotte regarde maintenant devant lui. On le verra bientôt dans le film Identité, un drame criminel dans lequel il joue aux côtés de Samuel Thivierge et de l'acteur français Sami Nasseri, qu'on a vu dans Taxi. Puis, plus tard cet été, il devrait tourner avec André Lachapelle dans le film « Il pleuvait des oiseaux », une adaptation cinématographique du roman du même titre qui sera réalisé par la cinéaste Louise Archambault, connue pour Gabriel. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais c'est un super beau projet, confie l'acteur à propos d'Il pleuvait des oiseaux. Ce sera un film troublant et très impliquant. Iris Gagnon-Paradis signe quant à elle un texte intitulé « Vendetta des grands ballets, la mafia sur pointe » et c'est assez étonnant comme récit pour un ballet. Avec ses magnifiques costumes sortis tout droit des années 50 et son univers inspiré de la mafia italienne venue s'installer aux États-Unis, le ballet narratif « Vendetta » risque de faire sensation. La chorégraphe acclamée Annabelle Lopez Ochoa, qui signe cette création pour les grands ballets, a l'ambition d'offrir de nouvelles histoires aux aficionados du ballet classique. Vendetta, c'est d'abord l'histoire d'un parrain, Don Marello, Marcin Kaczorowski, et de sa fille Rosalia, Agnia Nesvitalo, qui devra lui succéder à la tête de la mafia. Et c'est donc un ballet résolument féministe. En ballet, la femme est toujours fragile, élégante. Je voulais donner un autre rôle à la danseuse classique, affirme la chorégraphe Annabelle Lopez Ochoa. La presse a assisté à une répétition générale de la création et ce sera présenté au théâtre Maisonneuve, du 24 mai au 2 juin. Ce n'est pas souvent qu'on parle d'archéologie et de culture, et pourtant il y a lieu de s'inquiéter. Archéologie, les vestiges du site Quartier Robertval menacés, ce que rapporte Le Devoir. Les vestiges de la colonie éphémère fondée à l'embouchure de la rivière Cap-Rouge par l'explorateur Jacques Cartier en 1541 pourraient disparaître selon un groupe d'experts mandaté par la Commission de la capitale nationale du Québec. Le berceau de la Nouvelle-France est à la merci des marmottes et des intempéries, peut-on lire dans un rapport obtenu par Le Devoir en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Si aucune action ou mesure n'est prise, la disparition de ce patrimoine est assurée, écrivent les archéologues Gilles Sanson et Richard Fizet dans le document remis à la commission, propriétaire du site, en février dernier. En plus de creuser des tunnels au milieu des vestiges, des marmottes se sont régalées de charbon de bois provenant des restes des pièces de charpente du 16e siècle. Les ravages causés par les animaux fouisseurs et des facteurs climatiques ont fait disparaître près de 12 mètres cubes de sol. Aucun autre site archéologique au Québec ou ailleurs en Amérique et même en Europe ne peut suppléer à l'information perdue sur le site Quartier Robertval, soulignent les co-signataires de l'étude. Toute perte d'information diminue la capacité d'interprétation du site et de sa mise en valeur. Ainsi, chaque perte est irréversible. La ministre de la Culture, Marie Montpetit, a signé un avis de classement du site et de sa collection d'objets le 8 février dernier. Ce geste n'est pas associé à l'attribution d'une aide financière, explique la porte-parole du ministère, Annie Le Gruyec. Le ministère n'a pas reçu à ce jour de demande de la commission pour effectuer des interventions supplémentaires sur ce site. La commission rétorque avoir pris acte des recommandations du rapport sans son fizet. Les scénarios proposés au gouvernement ne peuvent toutefois être révélés, affirme la responsable des communications de la commission, Anne-Marie Gauthier. La décision pour l'avenir du site archéologique Quartier Robertval n'est pas encore arrêtée. La rivière cachée dévie comme une rivière, c'est le titre de la critique du film de Jean-François Lesage publié dans Le Devoir. Certains films sont comme des poèmes. C'est le cas du plus récent de Jean-François Lesage qui, entre essais et documentaires, utilise une rivière lotie au creux d'une forêt dense à flanc de montagne comme une métaphore de l'existence. Elle suit son cours, en apparence immuable, mais changeante néanmoins. Comme les gens qui viennent s'y baigner, s'y confier. Des hommes et des femmes de tous âges, en couple ou non, ou qui l'ont déjà été mais ne le sont plus, des amis. Chacun son tour, par pair ou en petit groupe, ils se posent sur la berge, certains après avoir plongé, s'être laissé flotter, s'être laissé porter. La rivière, elle est toujours là, elle est toujours pareille, mais son lit peut changer de place, relève à un moment une participante songeuse. De fait, en ce lieu où le murmure du courant et le bruissement du feuillage se meuvent en silence pour quiconque vient d'abandonner la frénésie du quotidien, l'esprit vagabonde, les langues se délient et la parole, à son tour, coule. Chacun arrive avec son questionnement, sa quête, son bilan. La sérénité absolue est-elle chose possible? L'amitié suffit-elle pour contrer le mal de vivre? Et l'amour? Peut-il être fusionnel sans qu'un des amants s'y perde? Peut-il survivre aux épreuves? À ce troisième enfant jamais conçu dont il ne voulait pas, mais elle, si? Autant d'enjeux, de préoccupations qui émergent sans intervention de la part de Jean-François Lesage, connu pour un amour d'été. Ce dernier intercale entre ses passages parlés des interludes contemplatifs, mettant en valeur toujours dans un esprit poétique et non de carte postale, la nature enchanteresse qui flanque les rivières du titre. Rivière dont le documentariste explore les sinuosités, attentif autant à ses ondes de calme qu'à ses ondes de bouillonnement. La progression narrative, car il y en a une, tient à ce que tout cela se déroule en l'espace de 24 heures. Le jour décroît, la lune succède au soleil, puis l'aube renaît, comme un espoir.
Si le loup m'avait vu, c'était Lydia Kepinski et sa chanson « 1er juin ».
Il y a déjà très longtemps, dans une lointaine jeunesse, j'ai connu l'époque des téléphones à roulettes. Et je suis en train de me demander si un autre de mes grands apprentissages de la vie n'est pas en train de révéler mon âge. Je vous le dis tout de suite, je sais conduire manuel. Or, ça ne s'apprend presque plus que nous apprend Marc Allard dans Le Soleil. La conduite manuelle à l'agonie. Une photo d'une boîte de vitesse manuelle circule ces jours-ci sur Facebook avec la mention suivante « Antivol pour les milléniaux ». C'est une blague, bien sûr, mais elle n'est pas si loin de la réalité. Seulement 2% des apprentis conducteurs apprennent maintenant la conduite manuelle selon les données de l'Association des écoles de conduite du Québec, le plus important groupe de propriétaires d'écoles de conduite de la province. Il y a beaucoup d'écoles qui ont abandonné les véhicules à transmission manuelle parce qu'il n'y a pas assez de marché, dit Mark Thompson, directeur de l'association. C'est presque disparu aujourd'hui. Dans les 5 dernières années, ça a diminué de façon exponentielle, constate Stéphane Santerre, copropriétaire des 12 écoles de conduite technique dans la région de Québec, qui ne fait pas partie de l'association. On ne donne pratiquement plus de cours manuels. Pour la nouvelle génération de conducteurs, semble-t-il, trouver le point de friction, glisser les vitesses au bon moment et ne pas étouffer dans une côte sont des habiletés du passé. Alors que certains y voient un simple reflet du marché automobile, d'autres déplorent une perte de compétences et une certaine paresse associée à une génération dorlotée par l'automatisation. Allez, nouvelle très inquiétante. Ben, en fait, ce serait inquiétant si ça ne s'était pas produit au Massachusetts. Je vous donne le titre qui en lui-même est assez anxiogène. Il retrouve 26 tics sur son corps après une balade. De quoi dégoûter de la randonnée, même les plus motivés d'entre nous. Un Américain a retrouvé 26 tics éparpillés sur lui après s'être baladé en éclaireur dans un sentier du Wachusett Réservoir dans l'État du Massachusetts. « Je suis habitué de marcher dans les bois et je suis habitué de trouver des tics sur mon corps », a expliqué Derek Lirange à Fox News. « Mais en retrouver 26 sur lui, c'était incroyable », a poursuivi celui qui admet avoir été effrayé en constatant que plusieurs d'entre elles grimpaient sur la jambe de son pantalon. Le jeune homme était allé explorer le secteur avant la tenue d'une randonnée organisée jeudi par les jardins botaniques de Tower Hill à Boylston quand il a fait cette trouvaille plutôt dégoûtante. En raison de cette invasion de tics, les organisateurs de la marche ont pour leur part préféré l'annuler et la remettre à plus tard. Les amateurs de balades en nature sont invités à être vigilants face à la menace que représente la maladie de Lyme, transmise par ces insectes piqueurs. Il est conseillé de porter des pantalons et un haut à manches longues pour bien se protéger. Ceux qui possèdent des animaux domestiques doivent également garder l'œil ouvert pour déceler toute tique dans leur pelage. Et je vous rappelle que la tique est maintenant installée pour de bon dans le sud de la province. Bon, il s'en passe des choses à la Maison-Blanche depuis un an et demi, mais le truc qu'on n'avait pas prévu, c'est que le terrain s'effondrerait. Ben, ça a commencé, semble-t-il, puisqu'une doline est apparue. Une doline, c'est quand il y a un vide qui se crée sous terre et soudain le sol s'enfonce dedans. Eh bien, il y a une doline qui est apparue devant la Maison-Blanche et ce trou, ben, il s'agrandit. Une doline a fait son apparition tout près de la Maison-Blanche et ce n'est pas une fake news. Évidemment, le trou, pas si béant, attire l'attention de certains journalistes parlementaires qui se sont tournés vers Twitter pour alerter la planète. Selon certains observateurs proches du dossier, le trou, qui est entouré d'une barrière de fortune fabriquée de rubans de police et de cônes oranges, semble grossir et ça nous vient du Journal de Montréal. Il y a une nouvelle qui tape dans à peu près tous les quotidiens de la province, puis j'ai essayé de ne pas vous la lire, mais bon, je vais vous la lire finalement. Je vais vous lire le texte de Laura Lévesque dans les pages du quotidien de Chicoutimi. AD4X récidive avec ses auditions 3X. Eh oui, le titre dit à peu près tout. AD4X a récidivé à Saguenay jeudi soir. La boîte de production pornographique a filmé ses fameuses auditions 3X derrière le bar L'Illusion de Chicoutimi. L'événement s'est tenu à quelques jours du procès qui oppose Saguenay à l'hôtel Plaza de la Baie qui a été l'hôte de la dernière soirée casting à l'automne dernier. Et rappelons-le, la ville a menacé AD4X de représailles si elle filmait son film sur le territoire municipal. Président de l'entreprise, André Delassène a tout de même décidé de tenir son événement en septembre dernier. L'entreprise n'a pas reçu de contravention, contrairement à l'établissement Bérivien. Au départ, on nous disait qu'on allait recevoir des contraventions, mais on n'a rien eu. C'est finalement l'établissement qui a reçu des contraventions. Pourtant, il n'y a rien d'illégal, a dénoncé le président d'AD4X dans une entrevue accordée au quotidien. Mais on voulait revenir rapidement au Saguenay pour un autre casting. On voulait montrer à la ville que finalement, on n'a pas peur, a-t-il ajouté en parlant des menaces de Saguenay. Le procès opposant Saguenay à l'hôtel Plaza se tiendra le 29 mai en la cour municipale. L'établissement est représenté par Maître Charles Quentin. « Je suis très confiant dans ce dossier. À mon avis, il n'y a aucune infraction. On va se défendre ad nauseam », a insisté Maître Quentin, préférant garder son argumentaire pour la cour. André Delassène organise des soirées casting depuis près de 4 ans au Québec. Deux villes se sont opposées à ces événements. « On se vante d'être une société ouverte, mais on est très puritain encore. Pourtant, c'est un besoin de base, et ce sont tous des gens majeurs et consentants. Si c'est bien encadré, on ne verra pas de jeune fille de 16 ans débarquer », commente le producteur, rêvant d'une société acceptant mieux l'industrie du sexe. Deux actrices pornographiques étaient à Chicoutimi jeudi pour les auditions qui se déroulaient dans un autobus modifié garé derrière le bar. Les hommes et les femmes étaient invités à participer à un court film qui sera ensuite diffusé sur le site de AD4X. L'événement se tenait toute la nuit. À 20h, un candidat a brisé la glace avec les deux jeunes femmes, Nicolas, 27 ans, a permis au quotidien d'assister à la scène qui était filmée dans le motorisé. Les apprentis vedettes porno peuvent mettre un masque pour tourner le film, mais le représentant en vente a accepté de montrer son visage. « Je suis un porc », a-t-il annoncé, visiblement confiant de faire la scène, mais après 15 minutes, il lui a été impossible de présenter les armes. Allez, un autre fait cocasse, inquiétant, je sais pas. Coupable d'avoir voulu tuer sa femme en sabotant son parachute. C'est un texte de l'agence France-Presse. Un sergent de l'armée britannique a été reconnu coupable jeudi d'avoir tenté d'assassiner sa femme à 2 reprises, en sabotant son parachute et en provoquant une fuite de gaz chez eux. Le trentenaire voulait éliminer sa femme de 42 ans pour commencer une nouvelle vie avec sa maîtresse. En mars 2015, Emile Sillyers avait ouvert le gaz au domicile de la famille où étaient présents ses deux jeunes enfants, espérant tuer sa femme, Victoria, mais la tentative avait échoué. Moins d'une semaine plus tard, son épouse avait miraculeusement survécu à une chute de 1200 mètres après une défaillance de son parachute. Elle avait souffert de graves blessures à la colonne vertébrale, à la jambe et aux côtes. Emile Sillyers, 38 ans, avait auparavant saboté le parachute aux toilettes de l'aérodrome. Il est apparu dès le début qu'une intervention humaine délibérée était la seule cause possible de la défaillance à la fois de la voile principale et de la voile de secours, a déclaré la procureure Amanda Sawetz lors du procès devant le tribunal de Winchester, dans le sud de l'Angleterre. Tous les éléments ont montré qu'Emile Sillyers était l'homme qui avait le mobile et l'opportunité de commettre ces tentatives calculées d'assassiner sa femme, a-t-elle ajouté. Parachutiste expérimenté, la victime avait réussi à ralentir sa chute, son parachute de secours s'ouvrant partiellement peu de temps avant l'impact. Elle avait atterri dans la terre meuble d'un champ fraîchement labouré, ce qui avait aussi amorti le choc. La peine d'Emile Sillyers sera prononcée à une date ultérieure. Et je vous rappelle que l'homme est quand même un sergent des forces britanniques, sans dire long sur ses compétences de soldat aussi. Ah, on va parler de salaire de patron. Tiens, Stan Cho, dans la presse, oui, signe un texte intitulé « Le patron moyen américain a gagné 11,7 millions en 2017 ». L'augmentation de salaire correspond à la hausse que les PDG ont reçue en 2016, selon les informations salariales, boursières et autres données de rémunération analysées par Equilar pour l'Associated Press. Dans l'ensemble de l'indice élargi Standard & Poor's 500, le PDG typique a fait 164 fois le salaire médian de ses employés, selon l'analyse d'Equilar. Étant donné que le gouvernement américain laisse aux entreprises une marge de manœuvre importante pour calculer la rémunération médiane de leurs travailleurs et que certaines industries dépendent fortement des travailleurs à temps partiel, les ratios de rémunération des PDG sont imparfaits et compliquent les comparaisons. Malgré une certaine résistance, le Congrès a forcé les entreprises à publier les données comme moyen de mettre en lumière l'inégalité des revenus. Chez Yum Brands, le salaire de 12,3 du PDG Greg Creed était 1358 fois plus élevé que la moyenne de ses salariés. C'est quand même inquiétant. Et ça, il s'agit des compagnies publiques, celles dont les chiffres sont disponibles. Et voilà qui termine cette édition du 25 mai 2018 du Quotidien des quotidiens. Je rends ce micro à sa titulaire dès lundi, Hélène, qui sera de retour. Donc, merci d'avoir été là. Merci aussi à Mathieu Tessier pour avoir assuré la mise en onde et avoir assumé les choix musicaux.